ce soir sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bien le bonjour ou bonsoir, vous écoutez Campus Grenoble 90.8, vous écoutez cette émission également sur le site de la radio en direct campusgrenoble.org et vous pouvez réécouter cette émission ainsi que toutes vos émissions préférées grâce à la fonction podcast sur le site. C'est l'apérophonie, l'émission du collectif de Radio Campus où les uns et les autres viennent interviewer ou rencontrer ou parler des sujets qu'ils aiment. Pendant une heure, on va parler d'un livre qui s'appelle Grenoble Calling et j'ai les deux auteurs, coordinateurs qui sont à côté de moi. Bonjour, comment allez-vous?
Ça va.
Alors, il faut se rapprocher du micro, sinon ça ne marche pas. C'est de la radio, si tu es loin du micro, c'est pas bon.
Salut.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, je vais vous laisser vous présenter chacun brièvement. On commence par la demoiselle, bonjour.
Salut, du coup je m'appelle Margot. Voilà.
Et moi, c'est Nicolas.
Bien. Vous avez... comment on dit? Vous n'êtes pas vraiment les auteurs, puisqu'en fait, c'est une compilation d'entretiens à différents activistes qui sont mis en forme par vous-même, ce livre.
Ouais, c'est ça. Ouais, je crois qu'on dit qu'on est les auteurs, hein, quand même.
Les monteurs.
Ouais. Les monteurs, les coordinateurs... le livre s'appelle Grenoble Calling et il traite de l'histoire vivante du punk à Grenoble, pour faire vite.
Ouais.
Ouais.
En revanche, il faut vraiment être devant le micro, sinon on ne vous entend pas. Hein. Ouais. Et comment est née cette idée, ce projet?
Bah, c'est que nous, c'est un livre qu'on a fait sur 3 ans, et puis on évoluait un peu dans ces cercles-là, d'avoir organisé des concerts, joué dans des groupes, et on était, enfin moi pour ma part en tout cas, ça faisait plusieurs années que j'étais assez intrigué par savoir ce qui s'était fait avant que moi je connaisse, quoi, c'est-à-dire... Moi, je suis à Grenoble depuis une vingtaine d'années, mais tous les lieux, les groupes d'avant, ça restait un peu mystérieux pour moi. Et ça part vraiment d'une curiosité comme ça, de comprendre qu'est-ce qu'il y a eu au niveau de la scène punk avant. Voilà.
Oui, voilà, c'est ça. C'était un peu creuser une sorte de fil invisible, de savoir comment on en était arrivé à ce qu'il y avait aujourd'hui, à ce qui se passait aujourd'hui, qui sont les gens, tout ça, quoi. Et après, cette idée, au début, c'était pas du tout forcément de faire un bouquin. Ce qu'on voulait, c'était raconter cette histoire collective à travers la parole des individus, mais au début, on pensait presque que ce serait juste une brochure, ou enfin...
Ouais, un fanzine.
C'est ça.
Et puis on est allé voir des gens et ça s'est enchaîné, ça s'est accumulé et à la fin ça fait le bouquin que là nous on a devant nous, donc qui fait quasiment 300 pages.
Ben oui.
Voilà. Résultat inattendu.
Et il y avait aussi la volonté de raconter un peu ce que c'est la complexité du punk et de la scène DIY, quoi. Enfin, parce que c'est quelque chose qui est devenu presque mainstream aujourd'hui et il y a tout un sens, qu'il soit politique ou social, en fait, qui est là depuis très longtemps.
Quand on lit le bouquin, on se rend compte que la scène a été foisonnante.
C'est vrai.
Ouais, ouais, on est remonté. En fait, c'est ça, c'est qu'on essaye de restituer une quarantaine d'années d'activisme. On a retrouvé des gens... On n'a pas trouvé de gens de la fin des années 70, on a trouvé des gens qui ont été actifs, peut-être qui étaient lycéens, qui écoutaient des disques dans leur chambre à la fin des années 70, mais des gens qui ont été actifs plutôt à partir du début des années 80. Uh-huh. Et Alors c'est tellement foisonnant que nous d'ailleurs on prétend pas restituer l'intégralité de ce qui s'est passé. Je crois que c'est impossible, mais on lance des petits aperçus, quoi. On a déterré, enfin déterré, mauvais terme, mais on a déterré quelques groupes, des lieux. Il y a plein, la plupart des lieux dont on parle n'existent plus, mais comme tu dis, quoi, c'est ultra foisonnant, quoi. Il y a une myriade d'initiatives, de gens qui ont mis plein d'énergie, et c'était aussi, c'est un peu nous comme on l'a conçu, c'est une forme d'hommage à tous ces gens qui se sont beaucoup agités pendant des années, qui ont passé des fois 24 heures de leur journée, et puis bah, une fois que le lieu il est fini ou que le groupe n'existe plus, les gens qui n'ont pas connu l'époque, ils l'oublient, quoi. Ouais.
C'est une sorte de transmission, en fait.
Ouais, c'est complètement ça. Et même au-delà de gens qui n'ont pas connu l'époque, c'est aussi... des fois, il y a plein de teams, en fait, même au même moment. Et du coup, t'es pas forcément toujours en lien. Enfin, montrer cette pluralité à un moment donné de cette scène-là, quoi. Enfin...
En fait, moi, ce qui m'a... Au départ, très honnêtement, hein, je vais vous dire la vérité, j'ai acheté le bouquin en me disant, bon, c'est une super initiative, je suis content, faut soutenir, machin, bidule. Et j'avais, mais pas du tout envie de le lire. Et pour avoir fréquenté beaucoup ces scènes-là, ces lieux-là, ces groupes-là, je me suis dit, oh là là, tous ces vieux souvenirs. Oh là. Et puis en fait, j'ai commencé par la partie qui raconte comment ça se passait à Grenoble avant que j'y arrive, parce que moi je suis arrivé en 88. Donc je me suis dit, par curiosité, ça c'est intéressant, parce que j'étais pas là, donc j'ai pas de passif ou de souvenirs de tout ça. Et puis après, je me suis laissé bouffer par le reste, et à la fin, je me suis dit, puis il y avait ça, puis il y a eu ça, puis en fait... Donc c'était vraiment intéressant parce que c'est vrai que, bon après j'ai 52 ans donc j'ai un peu vu les 30 dernières années, mais je me dis les gens qui arrivent maintenant, qui sont arrivés il y a 5 ans, qu'est-ce qui reste de même ce qui s'est fait il y a 10 ans quoi.
C'est une grande question là dans cette ville où il y a beaucoup d'étudiants, ce qui d'une façon est une chance, mais ça fait aussi qu'il y a beaucoup de rotation. De gens à Grenoble. Et c'est un petit peu reconstituer des pratiques, quoi. Et parce qu'en fait, le punk, je pense, on y reviendra dans le cours de l'émission, mais c'est pas qu'une musique, c'est aussi tout un ensemble de pratiques, d'idées. Et raconter comment est-ce qu'on en est arrivé à aujourd'hui, par quoi on est passé, toutes les différentes équipes qui ont fait des choses d'une façon, d'une autre, qui ont essayé des choses, qui se sont plantées, qui ont réussi des choses, qui se sont plantées. Bon, ben, essayer un petit peu de faire cette transmission-là, raconter les histoires oubliées et que personne n'a de raison de raconter, à part, de temps en temps, t'es à la buvette et puis y a un vieux qui te saoule en te racontant ses histoires, mais en fait, c'est un peu chiant. Là, c'est peut-être une manière plus facile de les transmettre, quoi.
Là, puis on voit les passages de témoins entre différents endroits, des gens qui sont passés d'un endroit à l'autre, etc. Parce qu'en fait, il y a un peu deux périodes dans le livre et dans la scène. Il y a eu la période avec les groupes, le tout début où c'était quand même, il n'y avait pas vraiment de lieu attitré. Puis ensuite, quand il y a commencé à y avoir des lieux occupés, des squats ou des endroits où les gens se réunissaient régulièrement. C'est une bonne question, j'avais pas réfléchi à ça comme ça. Mais c'est bien en même temps. En fait, chaque lecteur.
Toi, tu dis que.
Début, je pense que dans les années 80, enfin, moi, c'est ce que j'en ai retenu. Et comme je connais quelques personnes qui étaient dans ces groupes à cette époque-là, ils avaient pas vraiment d'endroit pour jouer. Ils faisaient du punk, tout était nouveau, mais il n'y avait pas de lieu, il n'y avait pas de squat, il n'y avait pas de local de répète, il n'y avait pas d'endroit pour vraiment se retrouver, à part un bar ou deux, mais voilà.
Bah, il y avait leur bar, après il y a quand même, certains répétaient dans une cave qui avait l'air d'être, enfin, c'est un peu ça la Batcave des Batman, enfin, il y avait la Freeze aussi, où il y avait quand même des locaux de répète, il y avait un bar, il y avait une scène, enfin... Non, j'ai l'impression qu'il y avait quand même ces dynamiques-là. Après, elles sont peut-être racontées.
Ouais, nous, on voit peut-être des continuités et des ruptures, mais comme on a fait le bouquin, on a opté plus pour un découpage un peu chronologique, on a coupé en quatre parties qui sont grosso modo des parties par décennie, que par commodité, on a appelé les années 80, les années 90, etc. Je suis pas tout à fait sûr de ton truc sur le qu'il y a deux périodes, un moment où il y avait des groupes et puis un moment où il y avait des lieux. Après, quand on a lancé l'idée du bouquin, c'était de s'attacher au concert. Nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir qui c'est qui a organisé, qui a joué ou qui allait dans les concerts à Grenoble. C'est pas forcément à la base un truc autour des groupes grenoblois. Et, mais c'est vrai que dans les années 80, il y a peut-être un certain nombre de groupes qui ont eu un petit peu de... Enfin, il y avait un plus gros public, peut-être, là-dessus. Et après, on s'est mis à interroger plus des gens qui ont tenu des lieux. Mmh. Bah, la zone interdite dans les années 80, le tape à vue dans les années 90 ou plein de trucs plus récents. Mmh. Ouais.
Très bien. C'est bien qu'on n'ait pas la même vision du truc. En fait, c'est aussi ce qui transparaît, je trouve, dans le livre et dans la façon dont vous avez présenté chaque chapitre avec différents intervenants pour certains sujets. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde n'a pas les mêmes souvenirs, les mêmes vécus, les mêmes ressentis d'une période ou d'une autre.
Bah, y a peut-être ça à dire que je crois pas que tu as dit explicitement, c'est que en fait le livre, si tu hésitais à savoir si on était les auteurs du livre ou pas, c'est que en fait sur les 300 pages, nous on a écrit 2 pages à la fin pour expliquer un petit peu nos intentions, et tout le reste c'est des images d'une part et des témoignages bruts, je sais pas, mais en tout cas c'est la parole des gens qu'on a interviewés.
Et ils sont nombreux.
Ouais.
Oui.
Vous avez fait le compte?
Une soixantaine. Après, je sais pas.
Précisément. Ouais, non, pas 62 ou 63, c'est pas vraiment. Mais ça donne une énorme idée de l'ampleur du travail aussi et des différents points de vue qui sont exprimés. C'est ça qui est intéressant.
Ouais.
On est allé interviewer une soixantaine de personnes et ensuite nous on a, enfin non pas ensuite, on a fait le boulot un peu de choisir ou de se faire choisir par ces gens-là. De savoir quelles questions on leur posait. Et puis après, c'est le travail de montage, quoi, qui est un petit peu de raconter l'histoire telle qu'on a compris ce que l'ensemble des gens nous racontaient. Donc, comme quand tu fais un film ou une émission de radio, le montage de tous les témoignages entre eux, c'est comme ça que c'est présenté. À la fin, dans un chapitre, il n'y a pas de voix off, quoi. Il y a entre une et, je sais pas, 6 personnes qui parlent dans chaque chapitre. Et. Nous, on a monté les interviews, entre guillemets, comme si les gens étaient en train de discuter entre eux, quoi. C'est-à-dire les témoignages se répondent les uns aux autres.
Et c'est là où moi, je dirais pas du coup... Enfin, je sais pas si j'utiliserais les termes de témoignage brut à partir du moment où nous, on a coupé dedans, on a fait un choix de sélection, on les a arrangés ensemble. Et même si on modifie pas la parole des gens, bah, en fait, la façon dont on va monter le dialogue... Il est chargé de sens, quoi. Et du coup, c'est des choix, c'est un choix que je pense fort et qui forcément est inhérent à un point de vue qu'on a, quoi. Enfin, je sais pas si je suis claire.
C'est à la fois, on a essayé d'être à la fois fidèle au point de vue des gens, ce qu'ils nous racontaient, et puis nous, forcément, bah, on a notre propre point de vue qui s'exprime à partir du moment où nous, on a compris un peu. Que les gens racontent, je sais pas, autour de tel groupe ou tel lieu, il se passe quelque chose. Là, nous, des fois, on se disait, bon, là, quand même, il y a quelque chose, quoi. Ça en fait 3 qui nous en parlent, il y a quelque chose à creuser. Et après, on sait qu'on va laisser une place à ça dans le bouquin. Donc ça, c'est un peu notre point de vue à nous. Et puis, j'imagine que délibérément, on a laissé certains sujets de côté, soit parce qu'ils nous intéressaient moins, ou on s'est dit, bon, là, on a déjà pas mal de choses sur cette période. Donc... C'est clair que si ça n'avait pas été nous, ou même si on avait été 3, si on avait eu un troisième ou une troisième dans notre équipe, bah, ça aurait pas été le même bouquin, parce qu'on aurait décidé d'aller voir quelqu'un d'autre en plus, ou en moins, ou si, ou ça. Donc, c'est un peu le paradoxe de notre projet, c'est qu'on essaie de raconter une histoire un peu générale, on essaye quand même que ce soit fidèle et que ça raconte à peu près l'histoire de la scène punk à Grenoble. Et puis à la fois, bah, c'est certaines personnes qui le racontent, quoi. Donc une histoire à la fois générale et puis très singulière.
Après, en vrai, si vous aviez juste mis bout à bout les 60 entretiens, ça n'avait aucun intérêt. Il fallait trouver des thèmes, des convergences, des sujets forts, etc. Parce que sinon, les entretiens bruts, c'est cool de parler avec quelqu'un, mais après, s'en enfiler 60 d'un coup, ça... Enfin, faut vraiment
ça aurait été un bouquin. Ouais, ça voilà. Aurait été un bouquin différent, tu vois. Ça se lit pas pareil. Enfin, je sais pas si ça aurait été chiant en vrai, mais c'est juste, c'est pas vers ça qu'on voulait aller, ou en tout cas qu'on a compris qu'on voulait aller au bout d'un moment, quoi. Tu vois. Après, oui, c'était ouais.
Du coup, ça fait, un bouquin beaucoup plus vivant. Et puis sur un même événement, pour décrire un même lieu, il y a vraiment différentes visions qui se répondent ou qui s'opposent ou qui se complètent. Donc on a l'impression que ça permet mieux de saisir. Parce qu'à l'intérieur des parties qui sont chronologiques, Il y a des chapitres, et les chapitres, ils sont eux-mêmes à peu près chronologiques, mais ils sont surtout thématiques, en fait. Ça vient parler de l'histoire de tel groupe, l'histoire de tel lieu, l'ambiance à une époque. Et c'est une forme qu'on a complètement volée, ceci dit. On n'a pas inventé ce truc-là de faire du montage avec que des témoignages et pas de voix off. Il y a plusieurs bouquins qui parlent de musique... qui sont construits sur le même principe et qui sont assez chouettes à lire.
Des noms.
Il y a récemment là, il y en a plusieurs qui sont chez aux éditions Alia. Il y en a un qu'ils ont sorti il y a pas très longtemps sur l'histoire de Joy Division où ils ont interviewé les membres du groupe encore vivants plus le ou les managers, les gens qui les ont fait jouer, leurs compagnes et ça raconte l'histoire du groupe. Mais ça. On a trouvé ce bouquin, je crois que le note était déjà à peu près fini. Chez Alia, il y a plusieurs bouquins, notamment sur l'histoire du punk. Il y a une histoire du punk américain fin des années 70 qui s'appelle Please Kill Me,
ouais.
Qui est fait comme ça.
Il y a la bio de NoFX aussi.
Elle est bien, je ne l'ai pas lu.
Ouais, moi j'ai kiffé. Je suis pas du tout. Franchement, j'y connais rien à NoFX et ça m'a bien plu.
Ah bah, ça donne envie.
Bah après, c'est toujours ce truc. Enfin, moi, ça transparaît bien dedans. C'est les histoires individuelles dans le collectif, quoi. Et qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça veut dire. Et cette bio, elle est intéressante aussi là-dedans. Comment on évolue ensemble, quel choix on fait, qu'est-ce qui nous arrive. Bref, tout ça.
Ouais, celui-là, ils l'ont fait à 6, je crois. Il y a un journaliste, enfin, je ne sais pas s'il est journaliste, mais il les a aidés à faire le bouquin. Et les 5 personnes qui ont été membres du groupe au fil des années. Et puis, c'est un peu pareil. Là, sur chaque thème, ils racontent. Et puis, des fois, ça se complète. Et des fois, tu te rends compte que les gens ont vécu les choses complètement différemment. Voilà.
Ouais.
C'est l'intérêt du collectif, ça. C'est vraiment de se dire de la confrontation de points de vue, en fait.
Gros bon. Sujet.
Alors attention, on va faire philo maintenant. Bon, ça fait déjà un gros quart d'heure qu'on cause de ce livre qui s'appelle Grenoble Calling, qui est sorti aux éditions
Le Monde à l'envers.
Voilà. C'était quand? Février, mars, avril?
Avril.
Avril. J'avais dit que c'était au printemps, c'était mieux. On va faire une petite pause musicale. On commence par quoi?
On te laisse choisir.
Ah, merci. Eh ben. C'est juste qu'il faut que je retrouve le morceau que tu as amené.
Sur la clé?
Ouais.
Eh ben, regarde, il est là.
Oui, mais c'est écrit trop petit pour moi, je suis une vieille personne.
C'est celui avec l'icône bleue qui est au milieu.
Ah, ouais. Voilà. Ah, alors merci. Alors, c'est quoi?
Du coup, c'est un morceau, je sais même pas s'il s'appelle vraiment comme ça ou si je l'ai noté comme ça. C'est La Cabane et c'est un morceau des Pancho Villa qui a été décrit assez souvent comme le premier groupe punk grenoblois. Voilà, et qu'on n'a pas mis sur la compile parce qu'on n'a pas de membres interviewés dans le bouquin.
Et ça nous ramène en 1982, 83.
Je sais plus. Ouais, enfin, à ce 83, moment-là, ouais, je
peut-être
crois.
Bien 83. Ouais.
Enfin, 83.
Le tout début des années 80. Le groupe s'appelait Pancho Villa et le punk à Grenoble en 83, ça donnait ça.
Ça va bien.
Pancho Villa, le punk à Grenoble en 1983, ça sonnait comme ça. Vous êtes dans l'apérophonie sur Campus Grenoble 90.8 et je reçois... Je vais essayer de ne pas écorner les noms, vos noms parce qu'en fait je suis dyslexique, il faut le savoir. Donc Margot Capelier et Nicolas Bonami, c'est bien ça?
Non, c'est Bonani.
Ah, bah ouais, je savais que j'allais me tromper. Le livre s'appelle Grenoble Calling, il est sous-titré « Une histoire orale du punk dans une ville de province 1980-2020 ». On l'a dit juste avant, vous avez rencontré une soixantaine de personnes, des activistes, des membres de groupe, des gens qui ont géré, créé, soutenu des squats, etc.
Qui ont fait des fanzines, des gens qui ont juste genre, été publics.
Mmh. Ou des gens qui faisaient le graphisme pour les affiches, etc. etc. Donc c'est des gens assez différents et qui ont eu des implications très différentes dans la scène, mais comment vous les avez rencontrés?
Comment on les a trouvés, tu veux
ouais,
dire?
Parce que, il y en a quelques-uns, il a fallu les déterrer.
Ouais, et bah ouais, il y a plein de trucs, il y a les copains, il y a les gens qu'on nous a conseillé de rencontrer quand on a parlé de ce projet. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a les gens qu'on a trouvés en fouillant sur Internet, à fond. Ouais,
on a commencé, on connaissait deux personnes qui étaient impliquées dans les années 80 et 90. Dans le bouquin, c'est Hilda et Théro. Et on est allé les voir. Eux, ils nous ont raconté un petit peu ce qu'ils avaient vécu à l'époque. Et puis, ils nous ont dit quoi par exemple, les Batman. Tu connais pas les Batman? Non, je connais pas les Batman.
T'as y rencontré machin.
Bah ouais, alors ça... Et puis, eux, ils nous ont lâché une première ou deux premières salves de gens. On s'est renseignés. On est allé en voir certains qui eux-mêmes nous ont raconté des histoires. Mmh. Et la plupart des gens nous disaient, j'ai pas grand-chose à raconter. Mais par contre, faut aller voir machin. Et machin, et machin, et machin, et machin. Du coup, on est allé voir une partie des gens qu'on nous conseillait.
C'est ça.
Après,
il y a des gens qu'on a rencontrés par hasard aussi. Enfin...
Ouais.
Comment on rencontre des gens par hasard?
Eh ben moi, il y a quelqu'un avec qui je bosse dans le bouquin qui me racontait toujours des histoires. Et puis au bout d'un moment, tu te rends compte que les histoires qu'il raconte, ça recoupe avec d'autres trucs qu'on vient de te raconter. Puis tu te dis que c'est peut-être intéressant d'aller voir cette personne. Des trucs comme ça.
D'accord. Ou alors moi je suis dans un bar et je vois quelqu'un passer que je connais un petit peu et puis plusieurs personnes m'ont dit mais lui il faudrait quand même que vous pensiez aller le voir. Bon bah là on se met à discuter et puis voilà. Après c'est vrai qu'on a passé quelques nuits sur internet à éplucher, à voir si on trouvait pas d'autres choses que d'autres gens qu'on nous avait conseillé parce qu'en fait c'est un peu ça la limite de notre méthode, c'est on n'avait pas de méthode en fait en réalité. Non, mais je veux dire, on aurait fait un mémoire de sociologie. Tu travailles, t'as non seulement des grilles d'entretien, mais même pour choisir les gens. Bon, bah là, nous on se disait, ouais, ça le fait, non, ça le fait pas, ouais, bon, ah ouais, tiens, ouais, bonne idée, ah bah lui, ah ouais, bah non, mais on a déjà pris rendez-vous, alors on y va maintenant, bon. Et du coup, un des pièges, c'est de se faire juste enfermer parce que les gens que tu vois, ils te renvoient vers uniquement des gens qu'ils connaissent. Et les gens qui sont un petit peu plus périphériques, bah, tu les vois pas forcément. Alors là, une fois de plus, sans prétendre à l'exhaustivité, hein, des fois, ce qu'on a fait, c'est un peu d'aller fouiller les zines. On a aussi, ouais, c'est ça, on a chopé tout le catalogue des zines qui sont archivés à la Fanzinothèque de Poitiers, là, qui est une assoce qui fait bibliothèque, mais de la scène fanzine à Grenoble. Française. Et ben, on leur a demandé tous les fanzines grenoblois qu'ils avaient. Et puis, ben, on a obtenu d'autres noms de gens, comme ça. Les gens qui faisaient des zines à une époque. Et en plus, pour les années 80-90, c'est l'époque où les gens ils mettaient leur nom, leur prénom, et leur adresse, leur numéro de téléphone. et on a essayé un petit peu des fois de faire un peu du... Comment dire ça? Ouais, de se décentrer, quoi. Pas uniquement aller voir les gens importants. On nous dit « Ah, mais il faut absolument que tu ailles voir machin. » Alors, quand c'est la deuxième fois, tu te dis « Ouais, il faut qu'on aille voir machin. » Mais des fois, tu te dis « Bon, allez, on a compris qu'il était important pour aller voir les gens un peu moins importants. » Enfin, c'est quoi cette histoire d'importance, là?
Oui, c'est ça.
Et oui, il n'y a pas que des activistes. Il y a aussi des gens qui viennent juste voir, quoi. Ou qui restent pas longtemps, ou qui sont partis, qui ont fait autre chose, machin, quoi.
Oui, oui.
En tout cas, on tenait à pas centrer uniquement sur les gens qui ont fait de la musique ou qui ont joué dans des groupes, parce qu'il nous semblait que pour cette scène-là, quoi, elle est loin de se résumer aux musiciens, parce que c'est loin de se résumer à une histoire de musique. Donc on a tenu à aller voir des gens qui ont fait d'autres trucs, qui ont participé d'autres manières.
Oui, qui organisent des concerts, qui ont fait des émissions de radio, les fanzines, les affiches, les repas.
Les repas, les collages, le nettoyage, enfin, tous ces trucs qui se passent aussi en dehors de ce qui se passe sur scène, quoi, enfin, et qui sont hyper importants.
Mais oui, parce que sinon, il n'y aurait pas des gens sur scène, en fait.
C'est ça.
Souvent, c'est... Puis voilà, et en plus, il y a eu plein de lieux qui ont été des lieux autogérés, occupés, etc. Il y a un peu cette aventure-là aussi, qui a été très dynamique sur Grenoble pendant une grosse centaine d'années.
Ouais, à partir de... ça doit être la frise, peut-être le début des histoires comme ça. Et puis, ça court jusqu'à maintenant, quoi. En tout cas, là, les histoires les plus récentes qu'on raconte dans le bouquin, c'est encore un mélange de gens qui organisent dans des lieux un peu commerciaux parfois, et puis gens qui font des lieux autogérés, squattés ou autres, pour organiser leurs propres concerts.
Mmh. Oui, ou sauvages, ou enfin...
Et puis des ateliers qui sont transformés le temps d'un événement, ou des colloques, ou des trucs comme ça, quoi. Et on parle de rencontres, mais vous, vous êtes rencontrés comment?
Alors, comment on s'est rencontrés?
on y a réfléchi tout à l'heure, ouais. On ne savait plus.
On ne se rappelle plus.
Non, on se rappelait plus. Moi, j'étais dans le Gore-Tex, le petit qui est évoqué d'ailleurs dans le bouquin à l'initiative de copains et copines, surtout. Du coup, le petit agenda papier.
Parce que moi, j'aime bien le papier.
Oui, bah, ouais, et puis qu'en plus, il était méga fun et méga beau.
Bah,
enfin,
oui.
Il l'est, méga,
ça existe encore,
et
hein.
Méga beau. Ouais.
C'est un agenda papier qui sort tous les mois et qui...
Il annonce les concerts, les manifestations, les expos, les trucs à faire, quoi.
Mmh. Ouais, c'est ça. Avec un édito, avec quelques bonnes blagues des fois.
Et qui se trouve dans les bars, les bibliothèques et en le cherchant.
Voilà.
et du coup, je faisais partie de ça. Et on l'imprimait à l'atelier Fluo, dont fait partie Nico.
Voilà. C'est quoi l'atelier Fluo?
C'est un atelier de sérigraphie et d'impression associatif et autogéré, où on imprime tout un tas d'affiches, de pochettes de disques, de livres, de flyers, de programmes pour des choses qui sont liées à la contre-culture ou aux luttes sociales, et qui existent depuis 5 ou 6 ans à Fontaine. Et c'est là où, entre autres, le Gore-Tex est imprimé, ou la couverture du bouquin, d'ailleurs.
On va parler de l'objet après.
Hein. Ah oui.
Non, mais en plus, il est beau.
Tu poses une question, j'ai le bouquin entre les mains.
C'est vachement important aussi, qu'en plus il soit joli, qu'il soit assez représentatif du foisonnement que ça a pu être, notamment de façon visuelle. Mais les entretiens, vous avez systématiquement mené tous les deux, ou parfois c'était l'un sans l'autre, ou parce que les circonstances ne le permettaient pas?
C'est arrivé qu'on le fasse chacun de notre côté, enfin l'un sans l'autre, parce que des trucs de disponibilité, oui c'était ça, hein, en fait. Généralement quand on ne le faisait pas à deux, c'est parce qu'il y en avait un de nous deux qui n'était pas dispo, rapproche.
Voilà, c'est mieux.
Ou parce que c'était par téléphone.
Ouais.
Enfin, on a fait des trucs par téléphone à deux.
Oui, c'est arrivé, ouais. Ouais, ouais.
Mais oui, parce qu'en fait, tous les gens qu'on a interviewés sont pas. La moitié, ils se trouvent hyper facilement. Là, tu te retournes et ils sont là. Et puis il y en a d'autres. Il a déménagé en Nouvelle-Calédonie. Ah.
Oui, puis il y a eu aussi le. Enfin, nous, on a continué à interviewer des personnes pendant le confinement aussi. Et du coup, forcément, tu le fais avec les outils
disponibles.
C'est ça.
Mais globalement, on a essayé de les interviewer à deux. Et même des fois, dans une débauche de grands moyens, on a même interviewé des gens à trois. Avec un ami à nous, qui nous a filé des coups de main. Même une fois, on en a interviewé, ils étaient trois en même temps. Et nous, on était trois aussi. Incroyable, hein?
C'est beau, là.
La plupart du temps, quand même, on a interviewé les gens, ils étaient seuls et nous, on était à deux pour leur... on dit interviewer, mais là, ça fait un peu formel. En fait, on a bu des bières ou des cafés avec un magnéto posé sur la table.
Oui, c'est ça. Après, ça arrivait quand même souvent hein, qu'on interviewe par deux ou trois. Enfin, par deux, c'est arrivé quelques fois.
Quelques fois.
Ouais. Ouais.
Et après, vous êtes retrouvé avec des heures de bande.
Des heures de bande à retranscrire.
Alors la leçon numéro 1, quand on fait un entretien comme ça, ne pas faire d'entretien de 3h30 ou 4h, même si les gens disent des choses très intéressantes, c'est l'enfer derrière.
Ouais, le dérochage, c'est terrible.
Il faut se tenir à 1h30.
Ouais, 1h30, voilà. 2h.
Voilà. Le temps d'une bonne vieille cassette, c'est 90 et puis c'est bon, quoi. On s'arrête là.
Mais ouais, on a fait... Non, alors on s'est pas retrouvé avec des heures et des heures et des heures de rush, parce que ce qu'on a fait, c'est que à peu près au fur et à mesure, dans la limite de nos disponibilités, on a retranscrit... on interviewait... Alors, des fois, on se faisait des sessions, ça a dû arriver qu'on interviewe genre 5 personnes dans la même semaine.
Oui, c'est ça, et on se partageait les retranscriptions.
Voilà, qu'après, on a fait relire aux gens... qui ont corrigé, enlevé, ajouté, réécrit ce qu'ils voulaient, voire même dit ouais mais non mais finalement c'est pas représentatif de
oui.
J'étais d'accord pour le raconter au bar mais en fait là ça je sais plus
si c'est dans un livre c'est plus pareil
ouais. Et après bah on avait des pages et des pages et des pages et on a plutôt travaillé par décennies quand même. À un moment, on s'est dit, bon, là, les années 80, c'est à peu près complet. Donc, on n'a qu'à dégrossir les années 80.
Oui, c'est ça. C'est une fois qu'on avait fait valider par les personnes leur interview. Du coup, il y avait vraiment ce truc-là, quoi. On a cette masse que tu nous as validée et nous, on va piocher dedans. Ce qui était moins clair au début, parce qu'au début, on ne savait pas qu'on... Du coup, il a fallu réexpliquer.
Ouais, il faut dire ça, ouais.
C'est que, ouais, quand on a commencé, on ne savait pas du tout qu'on allait fonctionner comme ça. On a commencé par amasser des témoignages, et après, on allait bien voir ce qu'on allait en faire, en gros. Bon, au début, on pensait que ça allait être une brochure aussi, donc voilà, ça a bien évolué après. Et du coup, une fois qu'on avait fait valider ça... à chaque fois, on se retrouvait tous les deux pour avoir un temps de travail, pour se dire, bon, bah là, on va essayer d'avancer dans les années 80, piocher là-dedans, raconter cette histoire-là, et faire le petit découpage en chapitres, là, à partir des témoignages qu'on avait sous la main. Et du coup, en parallèle, on continuait les interviews, et en avançant à peu près chronologiquement. À peu près, hein, enfin...
Est-ce que... C'est pas tout à fait... La continuité, mais vous avez trouvé d'autres synthèses ressources à consulter, soit sur papier, soit sur Internet, concernant des gens qui ont raconté un peu leur vision de la scène grenobloise à un moment ou à un autre, hors fanzine. Je ne sais pas si je m'exprime
oui,
très clairement.
Oui, est-ce que... Ben, tu veux dire, est-ce qu'il y a des blogs ou
ouais,
est-ce qu'il y a des
choses
comme
ça,
comme ça qui... Ouais, ouais, bah, il y a. Alors, je suis désolée, moi j'ai un cerveau tout pourri, donc. Mais il y a ce truc où il y a une page où en fait tu peux trouver plein de groupes des années 80, c'est. Fénuidi, je sais plus. tu sais où on a. Il y avait les Têtes Destroyers dessus, comment ça s'appelle cette page internet Caméléon.
Caméléon Record, peut-être.
Ouais, je crois que c'est
ouais,
ça.
Qui réédite des vieux disques épuisés.
Et du coup, il y avait des groupes là-dessus. Après, il y a pas mal de blogs où on a trouvé de l'info comme ça.
Il y a un truc qu'on n'a pas utilisé. Il y a quelqu'un qui a fait tout un tas de photos sur les punks qui zonaient Place Victor Hugo dans les années 80. Et il a un blog où il a mis toutes ses photos. Il en publie une, je crois qu'il continue. Il en publie une tous les 6 mois, quelque chose comme ça. Et ça, on n'a pas utilisé parce qu'en fait, on n'a pas réussi à contacter la personne. Donc, on a pas pris ces photos-là. Il y avait plein de choses un peu éclatées, mais en vrai la scène grenobloise elle n'était pas particulièrement documentée, peut-être parce que c'est pas une scène particulièrement incroyable quoi. Il y a des villes qui sont connues vraiment pour avoir le groupe que personne n'oubliera jamais, ou une scène foisonnante d'où viennent plein de groupes. Et Grenoble, nous on a fait sur Grenoble parce que c'est là où on habite, où on habitait à l'époque quoi. Mais elle a pas été particulièrement documentée parce que c'est pas une scène particulièrement remarquable. D'où le sous-titre qu'on a mis au bouquin. En fait, c'est une histoire du punk dans une ville de province. C'est une ville de province parmi d'autres, quoi.
C'est ça, c'est une petite ville, mais on est un pays de petites villes, donc c'est logique.
Ouais, nous, ce qu'on pense, hein, là, c'est quelqu'un qui est... Il y a des villes qui ont des histoires particulières avec le rock ou le punk. Peut-être, tu vois, Rouen ou Saint-Étienne, mais quelqu'un qui viendrait de villes où il n'y a pas d'histoire particulière, comme Strasbourg, Limoges, Amiens, bah, j'imagine qu'en lisant tous ces témoignages de personnes très singulières qui sont de cette ville-là, je pense qu'il reconnaît quand même un certain nombre de choses de sa ville, de cette époque-là. Toi, tu nous parlais tout à l'heure hors antenne du fanzine que tu faisais au début des années 90. Tu disais qu'il y avait quand même un certain type de musique à cette époque-là.
Ouais.
Bah voilà, hein, c'était un peu les groupes, ces groupes-là ou ce style de musique-là dans toute la France. Donc on a essayé de faire quelque chose qui soit lisible en dehors de Grenoble, de pas faire juste album de famille, que t'es content de retrouver tes histoires, les trucs dont t'as entendu te parler, mais même si t'as jamais entendu parler de ça, si t'es pas grenoblois, bah, ça peut t'intéresser, quoi. C'est ça qu'on a essayé de faire.
Le livre est vendu avec un CD dedans, avec quelques groupes. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec un des groupes qui est sur le CD et puis de poursuivre cet entretien, ça vous convient? On a choisi The Revengers, si je me trompe pas.
Oui, je crois que c'est ça.
J'ouvre le livre parce qu'il y a la playlist des groupes qui sont dedans. N'être humain, The Revengers.
Je crois que c'est N'être humaine, non?
Quand je dis que je suis dyslexique, personne me croit, mais en fait c'est vrai, c'est N'être humaine, évidemment. Voilà, vous êtes dans la pyrophonie sur Campus Grenoble 90.8. J'ai une chaise qui grince, faudra mettre de l'huile après. Et on parle du livre qui s'appelle Grenoble Calling, donc une histoire orale du punk dans une ville de province 1980-2020. Et les deux coordinateurs auteurs sont dans nos studios. Et donc, maintenant, il est temps d'écouter The Revengers. Ah ben voilà, forcément, ça tombe pas quand ça marche. Voilà, c'est parti.
C'est le vent, la neige se passe. Pose des capsules, mousse et salue. Hallucine, le jeune, allogène. Je n'ai plus rien qu'une ruine. À la Suze, Suzine, du Césus, si sublime. Mine de rien, l'empire du prisme la consume. Consomme, assomme, consomme, assomme, consomme, assomme, consomme, assommation par statistique.
Thank you.
Alors je vais tenter de ne pas écorcher le titre. Donc Naître humaine, ça c'est le titre de la chanson. Le groupe c'est The Revengers. Et c'est sur le CD qui accompagne le livre Grenoble Calling, une histoire orale du punk dans une ville de province 1980-2020. Avec leurs auteurs-coordinateurs Margot Capelier et Nicolas Bonami. Bonani, je vais jamais y arriver, hein, je te préviens. Et donc, on est ensemble sur Campus Grenoble 90.8. On a encore 19 minutes à passer ensemble pour parler de... voilà. Vous aviez pas l'un d'entretien, puis un jour, c'est devenu un livre. Alors, comment ça s'est fait Comment c'est passé de l'un à l'autre?
Comment c'est passé de l'un à l'autre? En fait, on avait tellement de matière à un moment et tellement... on n'était pas du tout au bout de ce qu'on avait envie de proposer, ou en tout cas on n'était pas du tout au bout des rencontres à faire. Hey, coucou toi.
L'ordinateur il joue des morceaux tout
seul.
Moi
en vrai écoute, hein, je suis fan, ouais. Il n'y a pas de souci.
C'est super bizarre qu'il le fasse tout seul, moi. Ça m'inquiète qu'il se mette à jouer les trucs sans qu'on lui demande rien, c'est quand même un peu inquiétant que les machines prennent le pouvoir.
Du coup, c'est genre pour reprendre si j'y arrive, c'est comme on n'était pas au bout de notre processus, on va dire, et qu'on avait déjà tout ça et que évidemment t'as envie de tout raconter, alors tu sais que tu vas devoir trancher à un moment et faire des choix, mais on s'est vite rendu compte que notre brochure allait faire 400 pages, quoi, enfin tu vois, et que ça allait être compliqué. Voilà. Et du coup, on s'est dit qu'un livre, ouais, ce serait pas mal. Après, comment on fait un livre, Nico, il saura plus répondre que moi.
Ouais, en tout cas, non, même on s'est posé des questions sur quoi faire, parce que faire un livre, ça peut vouloir dire tout et n'importe quoi. On s'est demandé si on faisait un bouquin autoproduit, 500 exemplaires, si on proposait à des labels de musique de le coproduire. Il y avait un truc, on voulait essayer de faire quand même de la même façon qu'on a essayé d'être fidèle aux témoignages qu'on a reçus, parce que quand tu les découpes, quand tu les remontes et que tu mets d'autres gens à côté, tu peux très bien déformer le sens de ce que les gens t'ont raconté. Bon, on voulait un peu être fidèle dans la mesure du possible aux histoires que les gens nous ont racontées, aux manières de faire que les gens ils avaient, parce que c'est un bouquin qui est beaucoup sur les manières de faire de gens qui ont autoproduit leur disque ou qui étaient sur des petits labels. On parle de plein de concerts pas chers ou à prix libre ou gratos, de gens qui ont fait les trucs par passion. Et à la fois, ça nous disait quand même que l'objet, il arrive à trouver un public un peu plus large que uniquement les gens qu'on a interviewés. Mmh. Et par ailleurs, je suis actif dans une maison d'édition qui est grenobloise et qui s'appelle Le Monde à l'envers, où on publie des bouquins qui sont liés à l'histoire sociale et aux luttes sociales. Et avec Margot, on s'est posé la question et puis on est allé demander au Monde à l'envers si ça disait à la structure de nous accompagner pour éditer, produire, diffuser, distribuer le bouquin. Mmh. Et l'équipe a dit oui. Et donc l'équipe nous a accompagnés jusqu'au bout, quoi. Voilà.
C'est ça.
Ce qui fait que par rapport à cette histoire de fidélité, ça fait à la fois ça fait un objet qui est à 16 balles. Donc 16 balles, c'est pas gratuit, mais c'est 16 balles pour un gros bouquin.
Avec un CD.
Avec un CD, voilà.
Plein d'illustrations.
C'est un objet avec un code-barre dessus. C'est jamais très très agréable d'avoir un code-barre dessus, mais on a l'impression un peu d'avoir la maîtrise de ce qui se passe. C'est pas comme si on avait signé avec le Seuil ou Gallimard, qui d'ailleurs n'aurait pas signé avec nous.
Albin Michel,
ouais. Ouais.
C'est-à-dire vous avez maîtrisé aussi le processus du début à la fin. En étant avec un éditeur dont un de vous deux fait partie, qui est local, où on peut aller tous les jours pour voir comment ça avance.
Oui, enfin maîtriser. Moi, je sais pas parce qu'il y a plein de trucs que j'ai découvert en le faisant, quoi. C'est un monde que, enfin, tu veux genre faire un livre.
Et c'est ça le DIY. C'est on apprend en faisant.
Après, ouais, là, du coup,
le do it yourself.
Ou même le graphiste et la correctrice, on a travaillé avec eux en direct, quoi. C'est nous qui avons choisi, c'est nous qui avons bossé avec le graphiste et la correctrice, quoi. On a été complètement libre là-dessus.
Oui, c'est ça.
Le graphiste dont il faut dire
le nom.
Quelques mots quand même.
Ouais,
un peu plus que ça. Tu
veux dire du coup, le graphiste, c'est Richard. Qui est, je pense, son nom c'est Atelier Octobre.
Voilà.
Et du coup, on lui a demandé s'il voulait bien faire la mise en page du livre, quoi. Et sachant que lui, c'est quelqu'un aussi qui a beaucoup gravité dans cette scène, quoi. Il est d'ailleurs
musicien.
Il est dans le bouquin en tant que musicien. Il a aussi fait énormément d'affiches, ouais. Des visuels, cours de LP, tout ça.
Des machins.
Voilà. Du coup, et depuis un paquet de temps, donc ça faisait assez sens, quoi, qu'il trouve un peu comment mettre en forme la masse de témoignages qu'on avait assemblés et aussi d'archives, parce qu'il y a ça dont on a peu parlé. Enfin voilà, c'est tout ce qui est archives qu'on a essayé de faire rentrer là-dedans avec, du coup, le gros coup de main de Richard, c'est... travail photos. Iconographique, quoi.
En fait, il y a des illustrations affiches, toutes les pages.
Oui,
des
extraits de fanzines. Ouais. C'est
extrêmement foisonnant.
Ouais, il y a plein de trucs à.
Tout en restant lisible.
Voilà, et les lecteurs et lectrices verront qu'il y a un petit principe graphique pour la lecture des interviews qui est assez original, presque audacieux, mais en fait, ça marche trop, quoi.
Oui, ça marche, ouais. Au début, tu comprends pas, puis à la troisième page, tu as compris comment ça marche, et puis après, c'est tout le temps pareil.
Ah ouais, c'est hyper fluide après. Puis tu peux vraiment faire le choix de comment tu as envie de lire ce bouquin aussi, quoi. Enfin, d'une certaine façon, je trouve ça hyper malin. Donc merci, Richard.
Ouais, merci, Richard.
Quand même.
Voilà, qu'on embrasse très fort, on le connaît tous les trois, donc voilà, c'est fait. Moi, vraiment, au début, quand j'ai pris le bouquin à la librairie, je me suis dit, ouais, c'est chouette, il est joli au moins. Comme j'avais pas l'intention de le lire, je me suis dit c'est bien si j'ai un joli objet, voilà. Et puis après quand je l'ai lu, je me suis dit merde, c'est intéressant.
T'étais pas trop déçu à ce moment-là du coup?
Qu'il soit intéressant.
Bah ouais, en plus.
J'ai une relation compliquée avec la ville, moi. On va pas se mentir. D'ailleurs, je fais un peu ma tournée d'adieu pour bientôt partir, donc voilà, j'en profite. Et je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais vraiment que ça allait me faire chier tous ces vieux souvenirs. D'autant que moi, quasiment tous les lieux dont on parle depuis les années 90 jusqu'à maintenant, j'y suis allé, j'ai vu des concerts, il y a des concerts dont vous parlez, où j'étais, enfin, il y a des trucs, c'est vraiment beaucoup de souvenirs. Et les souvenirs, c'est cool, mais j'avais pas. Je sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas voulu répondre aux sollicitations que vous avez proposées parce qu'ils n'avaient pas envie de se rappeler de tout ça, mais c'est vrai que moi j'étais pas, avant d'attaquer la lecture, me faire bouffer par le bouquin, me faire happer par tout ça, je m'étais dit c'est bien que quelqu'un le fasse, parce que c'est intéressant qu'il reste un témoignage de qu'est-ce qui s'est passé pendant 40 ans, mais j'étais pas sûr d'avoir vraiment envie de remettre le nez dedans, et puis finalement voilà, je suis allé jusqu'au bout en passant plein de bons moments. Je lis Oli, moi, en plus, donc j'étais là, ah ouais, mais ça, je me rappelle, ah, mais les photos, ah ouais, ça ressemblait à ça, cet endroit. Il y a plein de trucs que j'avais oubliés, on va pas se mentir non plus. Et donc ça faisait ressurgir des bons souvenirs. Et effectivement, pour le côté histoire orale et histoire tout court, parce que moi, j'ai fait des études d'histoire, je trouve que c'est important, de rappeler qu'il y a les choses qui sont maintenant, mais il y a eu tout un background avant, il s'est fait plein de choses avant nous, et... Il y a plein de gens qui se sont bougé les fesses pour que quelque chose existe. J'ai trouvé ça très intéressant. Je le dis pas parce que vous êtes là, mais bon, parce que c'est vraiment ce que j'ai pensé.
Merci Bertrand.
désolé, vraiment, je m'attendais pas à ça, donc c'était une vraie surprise.
Bah après, c'est aussi, comme c'est des individus qui nous racontent toutes ces choses-là et que c'est des souvenirs qui restent très personnels, mais c'est pas tes souvenirs à toi.
Ouais,
du coup, c'est vraiment un regard et c'est ça qui est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que toi, ça t'a plu. Mais je pense qu'il y a des personnes qui peuvent pas être contents en fait en lisant certains trucs qui sont racontés parce que c'est des histoires que t'as vécu toi, t'as pas le même regard. Mmh. Et du coup, ça soulève plein de choses, quoi, je crois. Mmh. Enfin, et on en revient à ce qu'on disait, c'est quoi aussi l'individu dans le collectif avec ou sans l'individu. Enfin, je sais pas, moi, c'est ça aussi que je trouve intéressant dans ce boulot-là, quoi.
Mais oui, c'est le truc, c'est un des trucs qui nous a beaucoup travaillé. Il y a d'autres thématiques qui nous ont travaillé, mais comment est-ce qu'on arrive à produire un récit de ce qui s'est passé, sachant que ça restera jamais qu'un récit qu'on fait à deux, en ayant interviewé 60 personnes, mais en fait ça concerne beaucoup plus de monde. On a fait le job, on a essayé de bien le faire, on a un certain nombre de retours qui nous disent qu'il a bien fait. Mais en plus, on peut même, tu dis que tu as fait des études d'historien. Nous, on n'a pas fait d'études d'histoire. Enfin, on ne peut pas se parer de l'argument un peu qui est bien là, universitaire, objectif.
Et justement, c'est ça qui est bien, c'est des points de vue. Et voilà. Moi, je ne crois pas à l'objectivité, donc ça tombe encore mieux. Mais moi, j'en ai beaucoup parlé avec les gens qui l'ont lu, et dans les gens qui l'ont lu, il y a des gens qui connaissaient rien de tout ça. C'est ce que, bon, quand tu as été un peu impliqué, ou même sur une période courte, ben, tu vois, il y a des choses qui te rappellent ton histoire à toi, ou des bouts de ton histoire à toi, mais il y a des gens qui n'ont rien connu de tout ça, qui m'ont dit, mais on ne se rendait pas compte qu'il y avait eu plein de choses à ce point-là, ou... C'est vraiment agréable de se retrouver avec tout ça dans les mains, et j'avoue que ça reste un bon souvenir de lecture. Et en ce moment, je lis beaucoup de trucs qui sont pas bien, donc dans plein de styles différents, alors quand j'en ai un qui me fait plaisir, je lis énormément, et j'ai pas lu que des trucs passionnants ces dernières semaines ou derniers mois, alors quand il y en a un qui sort du lot, je me dis ouais, cool. Justement, le livre est sorti en avril. Vous avez fait quelques présentations dans des endroits.
La période n'y était pas très propice.
C'était pas idéal. Ça n'a pas été facile.
Non, on l'a présenté. Alors, moi, maintenant, j'habite Lyon depuis quelques années. Et du coup, on l'a présenté là-bas, dans un lieu qui s'appelle La Lutine.
Ouais.
Donc voilà, on a fait une seule présentation qui a été possible.
Et par contre, on s'apprête à le présenter à Grenoble, à faire, on pourrait dire, la sortie. Mais bon, en fait, c'est pas tant la sortie, c'est pouvoir, nous, un peu raconter ce qu'on a fait et puis échanger avec les gens qui l'auraient lu ou pas lu, ou qui ont été interviewés ou qui n'ont pas été interviewés. Et donc, ça y est, 6 mois après la sortie, c'est dans un mois, c'est le 13 novembre, l'après-midi, à 15h. Et le lieu reste à confirmer, mais ce sera annoncé sur le site de la maison d'édition, Le Monde à l'envers.
Très bien. J'avais une super question, mais elle a disparu. Oui, on le trouve où ? Oui, voilà. Parce qu'en fait, il y a aussi ça qui est important, c'est qu'il n'est pas vendu que dans les trucs DIY, punk, étiqueté. Tu disais qu'il y a un code barre, des fois ça fait un peu mal aux fesses, mais ça veut dire aussi qu'on peut le trouver dans des librairies grand public et que ça peut faire découvrir l'existence de tout ça à des gens qui ne sont pas impliqués.
Oui, on peut le trouver ou en tout cas le commander en librairie.
Ouais, dans n'importe quelle librairie, même à Lorient, il y a moyen de le commander. Après, il y a les librairies indépendantes de Grenoble qui nous soutiennent pas mal, particulièrement les modernes, rue La Canale ou le Square, place Docteur Martin. Ce que tu disais peut aussi se renverser. Ce qui est pas mal dans ce bouquin, c'est qu'il n'est pas uniquement disponible dans les grandes librairies. Il est aussi disponible dans le réseau alternatif, les lieux associatifs, ou je sais pas, comme le local autogéré à Grenoble, ou d'autres endroits plus alternaux. Il y a moyen de le trouver là aussi.
Non, mais justement, voilà. Ça c'est, j'allais dire, vu le sujet, plus attendu.
Ouais.
Et donc, ça, on s'imagine bien qu'on peut le trouver dans ces endroits-là. Et c'est vrai que qu'il soit dans des vraies librairies grand public.
Clairement, il y avait l'envie de faire un bouquin qui fait circuler des pratiques et qui ne s'adresse pas uniquement aux connaisseurs pour savoir si c'est le. Il y a un copain très impliqué dans le punk qui nous a dit je suis content parce que c'était pas une liste de groupes ou des commentaires d'albums et de discographies. Alors c'est pas du tout ça. Il y a un ou deux passages où il y a des gens qui nous disent des noms de groupes, mais en vrai c'est beaucoup un échange de pratiques et on tenait à faire circuler ça le plus largement possible. Faut pas déconner. On s'en fout que Nicolas Sarkozy lise le bouquin, mais chez des gens qui n'ont pas accès à ce réseau-là. Qu'ils aient connaissance de ce qui se bricole dans la scène punk pour s'en inspirer ou dire moi c'est absolument pas ça qui m'intéresse, mais pour peut-être aller se nourrir à cet endroit-là, quoi.
Ou voir qu'il y a des trucs qui sont juste à côté et qu'on peut aller y participer.
Tout à fait.
Malheureusement, c'est la fin de cette émission. On va terminer sur un dernier morceau, mais il y a des choses que vous voulez rajouter, des gens à remercier.
Ce bouquin, moi je veux bien dire merci parce que ce bouquin, on l'a évidemment pas fait qu'à deux, quoi, même si c'est nos noms sur la couverture. C'est un choix qu'on a fait parce qu'on a fait les choix éditoriaux, comme on l'a longuement expliqué tout à l'heure. mais on a été vraiment beaucoup à bosser là-dessus, quoi, que ce soit sur la mise en page, ou sur les coups de main, ou sur les retours, ou sur les soutiens.
Nos relecteurs et relectrices ne se sont pas limités à la maison d'édition. Il y a d'autres copains et copines qui nous ont fait plein de retours et qui nous ont bien fait, beaucoup fait avancer.
Oui, ou les soutiens techniques, que ce soit par exemple le copain qui... Tu vois, le morceau qu'on a écouté tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a pris la petite démo en cassette et qui l'a remasterisé pas mal pour que ce soit écoutable. Je sais pas quoi, des scans de l'enfer.
Oui. Il y avait la quantité, il y a des trucs.
Ah, surtout, on a numérisé, je sais pas, en volume, 10 fois ou 100 fois ça quand on compte les zines.
C'est
ça. Puis il y a Bertrand, le mec de Radio Campus, à qui on a filé un petit billet pour qu'il dise du bien du bouquin à l'antenne.
Je suis extrêmement cher. Non, mais franchement, je passe beaucoup de temps à dire beaucoup de mal sur la ville et ce qui s'y passe. Mais il faut aussi être objectif. Et quand on a passé du bon temps, il faut le dire aux gens, quoi. C'est important. Sinon, après, c'est dommage
pardon, je crois que j'ai pas compris ce que tu disais, mais je voulais juste dire qu'il y a tellement d'énergie qui a été dépensée à faire des trucs
ça se voit.
De ouf à Grenoble que
c'est ça, ouais.
Ouais, comme j'ai dit tout à l'heure, on voulait un peu rendre un hommage à ces gens-là, les gens qui ont fait des choses invisibles à l'époque et qui, en plus, une fois qu'ils arrêtent de les faire, vraiment plus personne ne sait qu'ils les ont fait.
Et qui le raconte super bien.
Bah ouais, merci quoi, aux gens qui ont fait tous ces lieux et ces groupes qui sont racontés dans le bouquin. Quoi. Mmh. Voilà.
Bon,
et qui le font toujours parfois.
Oui.
Et oui, heureusement d'ailleurs.
Ouais.
On finit donc avec les Chicken Calls. Ça vous va?
Chicken Call.
Chicken Call. Quand je dis que je suis dyslexique, je fais pas semblant. Hein.
Ça va super.
Merci d'être venu. Passez une très bonne soirée. À très bientôt.
Merci à toi. Bertrand.
Vivement le tome 2.
Voilà.